I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour ce nouvel épisode de On the Verge, c'est Max que j'ai reçu. Max est un vrai personnage. Max est grand, fin, élégant, je dirais même racé. Il est venu avec une grande décontraction et en même temps une forme de pudeur. Ça a été un vrai chouette moment qu'on a passé tous les deux. Ça a été un échange honnête, intime, une grande preuve d'intelligence émotionnelle également. Max m'a demandé, entre l'enregistrement et la diffusion de cet épisode, un petit temps pour qu'il puisse discuter avec son conjoint. Je crois qu'il était important pour Max, maintenant qu'il avait mis des mots sur la relation qu'il entretient avec son compagnon, de discuter avec lui. Et c'est vraiment intéressant de se rendre compte que parfois, quand on discute dans un cadre un peu différent de ses amis, de ses collègues, de ses proches, ça permet parfois effectivement une mise en abyme et une catharsis de ses propres sentiments. J'ai remarqué que ça permettait d'ouvrir pas mal de portes, que ça permettait à mes invités de peut-être répondre à certaines de leurs questions, interrogations, et engendrait parfois des discussions, en tout cas des réflexions. Je suis très contente en tout cas de participer à cela. Je vous souhaite une excellente écoute avec Max et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à nous écouter que nous en avons eu à enregistrer. Merci. Salut Max.
Salut Anne-Laure.
Ça va ?
Bah ouais.
Alors Max, les gens ne voient pas que tu as un incroyable pull léopard.
Ouais.
Avec un pantalon vert et des petites boots. Le look est, j'ai envie de dire, 100%. Max, t'as 31 ans.
Ouais.
On s'est vite fait parler par mail, etc. Et sans dévoiler tout ce qui va être raconté, moi j'ai trouvé ton projet de raconter ton histoire hyper intéressante parce que tu avais envie de mettre en avant une particularité dans ta sexualité.
Ouais.
Et je trouve ça chouette parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, je crois de mémoire, on n'en a pas encore parlé.
Ok.
Donc Max, je te pose la question que je pense à tout le monde. C'est quoi ton tout premier souvenir lié à la sexualité ?
Alors mon tout premier souvenir, c'est un camp scout.
Ok.
Et
scout
c'est
toujours.
Voilà, scout toujours, scout protestant. Donc c'était un peu plus, c'était pas trop mixte, donc c'était un peu plus cool que les scouts d'Europe, machin. Et en fait, c'est le quand on se baigne à la rivière. Donc garçon et fille, hop, rivière, pas d'eau courante. Et là, j'ai 12 ans et je vois tous ces corps nus et je viens d'une famille ultra pudique. Donc en fait, j'avais vraiment pas vu de corps nus.
Ni ta maman, ni ton papa.
Jamais.
Frères et sœurs, peut-être.
Ouais, on est quatre et on s'est jamais vus nus. C'est vraiment chacun sa chambre.
Même
on
jeune
fermait,
enfant.
Ouais.
Ok.
Alors. Si... Non, enfin, on s'est jamais vu nu, donc j'avais pas d'image du corps d'autrui.
Tu fais pas partie de ces familles où la maman met les quatre dans le bain, un coup d'eau chaude, un coup de savon, et c'était chacun
non,
à son
c'était...
moment.
Ouais, c'était okay. Assez. Puis on fermait bien les portes, il y avait un côté très.
Donc, vraie pudeur et très
ouais.
Pudique.
Okay. Et vachement, on avait cette petite vidéo québécoise que tu connais peut-être, Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le sien.
C'est vrai.
Mais qu'on nous repassait chaque année.
D'accord.
On était ultra sensibilisés aux pédophiles, à la pédocriminalité, on en parle beaucoup en ce moment, mais du coup, chez nous, mm-hmm. C'était ultra présent.
Ton père, ta mère plutôt ?
Plutôt ma mère. Vraiment, on avait une espèce de warning.
Elle t'a transmis cette angoisse ?
Ouais, complètement. Ouais. Et du coup, j'ai mis du temps. Il y a eu cette première étape au scout où, heureusement, j'ai commencé à voilà, et que c'était et c'était vachement chouette de voir tout ça. Je me souviens de cette batifolage dans l'eau.
Donc 12 ans, pas avant.
Non.
Donc t'es prépubère. Enfin, ça commence un petit peu à te chatouiller 12 ans.
Moi, j'ai une puberté très tardive.
Ok.
Au modèle où à 16 ans, j'étais toujours tout petit. Donc maintenant, tu vois, je suis hyper grand.
Tu viens rattraper. Tu fais combien?
Et 90.
Ah ouais, t'es grand, ouais.
Et je fais 1m65 en seconde.
Ok.
Et donc, je suis plutôt
t'es pas
petit
dans les...
par rapport
ouais,
à maintenant.
T'es pas dans les très grands, ouais.
Ouais. Et je... Non, puberté très tard. Donc avant, vraiment rien. Parce que...
Ça te questionnait?
Ça me questionnait pas mal. Je me fais larguer par des petites copines parce qu'elles me disent...
Il faut grandir maintenant.
Il faut... Ouais, c'est ça. Elles me disent, bah, moi, j'aimerais bien aller plus loin parce qu'elles, elles ont 15-16 ans. Elles ont déjà des expériences.
Ah, oui.
Elles, où elles ont envie. Et puis moi, en fait... la puberté, ça commence. C'est-à-dire 16-17. Mais en tout cas, moi, ça me... je suis pas du tout là-dedans.
T'es pas prêt?
Non.
Ton corps ne l'est pas, mais toi, dans ta tête...
Pas du tout.
Tu penses à la sexualité ou c'est quelque chose qui te...
Non, et même, pas de porno à ce moment-là. Enfin, vraiment, une enfance très...
longue.
Ouais.
Et quand tu dis des petites amies, donc ça veut dire qu'il y a des flirts?
Ouais, des copines.
Donc comment ça...
J'ai des vraies petites copines où on...
D'accord.
demande, est-ce que tu veux sortir avec moi? On demande à la meilleure copine.
Sur le petit papier?
Et sur le petit papier.
Et tu dois faire la croix?
Ouais. Oh, oui, non, rappelle. Je sais pas. C'est comme les sondages. et du coup, ouais, j'ai pas mal d'histoires, mais qui s'arrêtent faute d'aboutissement.
Parce que t'es pas dans l'initiative, t'es pas dans le...
Ouais, et puis ça devient trop sage, en fait. Trop vanille.
Beaucoup
trop. Et ça fait quand même un peu mal, parce que je me dis, mais pourquoi est-ce que, elles veulent aller plus loin? On est trop jeunes.
Ouais, ouais.
Bon, et finalement, vraiment, un collège-lycée super calme et
genre
très rigolo parce que
ouais.
J'ai quand même embrassé toutes mes petites copines, Julie, Marion, Ameline, Caroline.
Oh,
voilà,
d'accord.
J'ai plein de petits bisous, machin.
Ça s'arrête là.
Ça s'arrête là.
Ok, ce qui est chouette, c'est que tu t'es pas forcé en tout cas.
Non.
T'as pas... Et quand t'as des questions sur la sexualité, tu les poses à qui?
Je les pose à mon père plutôt, qui est généraliste. Qui est généraliste.
Ouais.
Et qui répond pas mal. Et surtout, ils ont eu la bonne idée, mes parents, de laisser plein de bouquins sur la sexualité. Je les ai lus, je les ai poncés, les bouquins. Et pas mal fait quand même. Pas trop ringue, vraiment qui aborde vraiment bien toutes les questions. Et,
qui sont pour les adolescents?
Ouais.
Ouais.
Ouais. Un peu zizi sexuel aussi de Zep.
Mm-hmm.
Je crois que c'était sorti. Et d'autres manuels de pédopsie, de psychologues qui disent en gros tout va bien, tout est possible,
okay.
Rien n'est grave.
Ah, c'est bien.
Petit sexe, gros sexe, tout va bien. Enfin, c'est vraiment des. Je me souviens de ces ouvrages qui rassurent beaucoup.
Mm-hmm.
Bon, on est quand même pas rassuré.
Ouais, mais, on est pas rassuré, mais bon.
Ça aide quand même. Ouais.
Dans le non-rassurage, il y a quand même ce filet-là. Oui, puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une discussion frontale avec des parents pudiques, mais ça reste quand même une ouverture à une discussion possible avec ces livres-là. Donc, c'est plutôt un bon entre-deux.
Ouais.
Ok, donc t'es au lycée.
Je suis au lycée.
Tu continues. Donc c'est des petites amies que tu as.
Ouais. Et j'arrive à Sciences Po.
Ah. Mais avant Sciences Po, pas de questions. C'est les filles qui t'attirent.
Ouais. Bon, on m'a dit que c'était les garçons et filles. J'étais très. On m'a dit que c'était comme ça. Donc je.
Garçons, filles vont ensemble.
Ouais, vont ensemble. C'est le projet. Mes parents sont ensemble. Ma sœur est en couple. Mon frère est en couple. Je me dis, bon, bah, hop.
Mmh.
Schéma, et je tombe amoureux d'Emilie, de Milou.
Mmh.
Je suis à Sciences Po, ouais.
Toujours vierge.
Toujours vierge.
Du coup,
donc j'ai 18 ans.
T'as grandi là.
Là, c'est bon. Il y a tout.
Et alors à ce moment-là, ton rapport avec toi, ton corps, ton sexe, la masturbation, il se passe des choses?
Pas tellement. Non, un peu. J'essaye et un peu, mais c'est vrai que.
J'ai un invité qui me disait ces âges où ça te chatouille dans le slip. Est-ce que toi, ça te chatouillait dans le slip?
Ouais, quand même. Mais j'avais surtout ce truc de dire il faut que j'ai ma première fois, quoi.
Ok.
C'était vraiment le projet, le grand projet, c'était.
Tous tes copains avaient déjà perdu leur virginité? Hein.
Non, non, pas tous. Je n'avais pas une pression de dingue, mais j'avais vraiment très envie de voir ce que ça faisait. Mmh. Donc, j'étais hyper curieux de ça. Et je me disais que c'était hyper difficile. Et moi qui suis vraiment très nul en genre conduite, en petits apprentissages, tu sais, du quotidien, je me disais ça va être hyper dur.
Tu fais Sciences Po, mais c'est compliqué de conduire, quoi.
Ah ouais.
Tu fais partie de ces gens.
Ça va être un truc hyper dur et je vais pas être à la hauteur et tout ça. Et Milou a déjà de l'expérience.
Donc ça, c'est ta petite amie que tu rencontres à Sciences Po.
Ouais. Tout de suite, on tombe amoureux.
Amoureux, ok. Ouais. Et donc, ça commence, vous embrassez. C'est ta première histoire d'amour.
Ouais.
Ok. Et elle a de l'expérience.
Elle a eu François avant et
balances
tous
les noms.
mais c'est parce que c'est des belles histoires. Et donc là, elle me pousse un peu à essayer. Moi, je suis un peu là, genre prenons notre temps et tout. Puis à un moment, elle me dit
Max, il faut y aller là.
Max, là, c'est le moment. Moi, j'essaye de reculer, de.
T'as peur, donc parce que t'as peur de pas être à la hauteur.
Ouais. Ah, je me dis que ça va être trop court, trop. Puis que je vais pas réussir à ce que ça marche. Et finalement, donc on le fait.
Vous le faites, c'est prévu. Vous avez préparé ce moment.
Ouais, vachement. On en a parlé des heures, y a vraiment les bougies, les tests avant, sida, alors que moi j'étais vierge, donc il y avait vraiment peu de risques. Et puis, le miracle, c'est que, en fait, c'est cool, quoi.
T'as été surpris de ça ?
Ah ouais.
Ok.
Du fait que de ce frotti-frotta, parce que cette angoisse de la pénétration qui est énorme, et finalement ça marche, et c'est incroyable. Moi, j'ai les larmes aux yeux du fait que finalement, 18 ans où je me disais tu vas pas y arriver, ça c'est pour les grands, c'est pas pour toi, et que finalement ça marche et que
c'est bien,
et que c'est trop bien, et que tu peux recommencer, et que c'est gratos. C'est vraiment
tout sur toi.
C'est vraiment génial. Et puis c'est une fille qui est tellement à me rassurer, à me dire que c'est cool. Ce sera pas tout le temps comme ça, hein, donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu.
Merci Milou.
Ah mais Milou, voilà. Et puis, alors, ce qui est incroyable, c'est que moi, on m'avait dit, tu vas voir, les filles, elles ont moins envie, moins souvent, donc tu joues avec ça, et je tombe sur quelqu'un qui est à l'aise et qui a envie
et
pour qui c'est quelque chose de d'assez simple dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que y a pas mille questions et c'est et donc c'est très cool.
Donc justement ce corps de Milou que tu vas découvrir nu et que tu vas caresser, embrasser, pénétrer, etc. Comment ça tu te rappelles un peu des sentiments, ce qui se passe en toi à ce moment-là ?
Ouais, il y a la bulle, quoi. L'impression que, du coup, le monde extérieur n'existe pas. Il n'y a que nous deux. Les jambes coupées. Moi, je trouve qu'il y a vraiment le fait que... Et puis toutes ces palpitations. Ouais, c'est vrai que je trouve ça merveilleux. Quand tu sais que ça va être ce soir parce qu'on se retrouve, qu'il y a pas sa coloc, ma coloc, machin, c'est génial, ouais.
C'est une super première fois en tout cas. Hein.
Ah ouais, génial.
Donc vous allez rester combien de temps ensemble avec Milou ?
Eh ben c'est trop bien, elle est au Cameroun un été, moi je dois aller au Canada et finalement j'annule mon billet pour le Canada et je la rejoins au Cameroun.
Waouh,
et ça
romantique.
C'est mon truc le plus romantique que j'ai jamais fait, donc c'est...
Il y a de quoi.
Donc surprise, et on passe un été au Cameroun à faire un peu d'humanitaire et puis surtout à kiffer ensemble, voilà ça. Donc c'est trop bien. Jusqu'à la troisième année à Sciences Po, on part à l'étranger. C'est vraiment donc Milou part en Afrique, c'est vraiment son projet et tout ça. Et moi je vais au Canada. Du coup, le Canada finalement, je l'avais dans un coin de la tête. Et puis le Canada, je fais une soirée. Alors, je me trompe de date, donc je perds mon billet d'avion, pour l'anecdote. Il y a vraiment un côté, le Canada, ça ne devait pas se passer. Il y a je crois que je n'avais pas finalement tellement envie d'y aller.
Il y avait quelque chose.
Finalement, j'arrive au Canada. Et c'est Montréal et tout le monde m'a dit c'est génial Montréal et puis au début non, je trouve ça juste je connais personne, il y a pas Milou, je trouve ça nul quoi le Canada. Et puis je fais une soirée et là je tombe sur Tommy qui est juste un blond
canadien
français. Qui a des yeux bleus et je le vois et comme Milou l'évidence quoi. Je me dis et j'oublie que c'est un garçon.
D'accord.
Enfin je le sais mais mais en fait sur le moment c'est juste waouh, Tommy il est beau, il est très séduisant, il est très intéressant, et donc je tombe amoureux.
De Tommy.
Et donc, je dois annoncer à Milou en Skype à distance que du coup, c'est fini.
Il n'y a pas eu de... Tu t'es pas posé un petit peu avec toi-même en disant, bon, peut-être que c'est... Enfin, voilà. Est-ce que je suis obligée d'arrêter mon histoire avec Milou? Et t'avais déjà consommé avec Tommy à ce moment-là?
Non. D'accord. Et on ne consommera pas.
D'accord.
D'ailleurs,
Ok. Mais tu vas arrêter avec Milou.
Ouais, parce que il faut que je lui dise que je suis tombé amoureux et que je commence à rater des Skype. Elle sent que je m'éloigne. Il y a un petit processus comme ça. Et voilà. Et donc, c'est... parce que moi, je suis sûr que lui, il est tombé amoureux aussi. Mm-hmm. Et j'ai oublié de...
De demander.
Ouais, de bien m'assurer de ses sentiments. Et moi, je suis sûr que c'est comme avec Milou, qu'il est aussi gentil que Milou, et que c'est la même histoire que je vais copier-coller. Et donc, je suis persuadé de ça. Et
que ce soit un garçon, ça n'a pas été un sujet pour toi?
Non.
À aucun moment, tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je fais?
Franchement, non. Je me dis juste... cette personne est incroyable et alors je me dis quand même oui si on ouais, je pensais que comme avec Milou j'allais le présenter à mes parents que ça allait être donc je me suis dit là il y a un sujet
là ça va être un peu plus...
là ça sera un peu plus chaud mais pour l'instant au Canada on est loin donc juste kiff.
Et même la sexualité, même si évidemment, bon, après, avec Tommy ça ne s'est pas consommé parce que c'est ce que tu viens de me dire, mais tu t'es pas questionné là-dessus? Qu'est-ce qui va se passer? C'est un homme, c'est un corps d'homme. Comment on va fonctionner?
Pas vraiment.
Non.
Non. Je me suis juste dit.
C'est extraordinaire,
dit,
moi, je trouve, cette jolie naïveté.
Complètement.
C'est extraordinaire.
Je me suis dit juste quand est-ce qu'on va le faire, pour le coup.
Encore une fois.
Et là, donc, on dans un café, on croise un gars vraiment de corpulence normale. Et il me dit, oulala, les gros lards, ça, il y en a plein dans ce pays. Et donc là, je regarde le gars qui est complètement normal.
Oulala, le
bonhomme. Et moi, je me regarde et j'ai, donc les auditeurs ne me voient pas, j'ai 30 kilos de plus que là.
Ah oui.
Donc, mais je suis quand même grand, comme
oui,
tu l'as dit.
Très, très grand. Là,
donc,
là,
je suis
vraiment fin.
Voilà, là, je suis fin.
T'es vraiment fin.
Donc, je suis un costaud, je suis max costaud, quoi. Et donc, je le vois, et je me vois, et je me dis, bon, c'est pas gênant. Et je vois que pour Tommy, c'est un vrai sujet. Et donc, je me dis, t'es amoureux, bah, tu vas perdre du poids.
Ah ouais.
Je rentre à ma coloc, j'enlève toutes les bonnes choses, je garde les carottes et les choux. Je m'inscris à la salle de sport et c'est parti pour perdre. Et Tommy m'encourage à fond. J'en perds 2, 4, 6, 8, 10.
Vous avez quoi comme rapport avec Tommy? Vous êtes potes?
On est potes, ouais.
Il n'y a pas d'ambiguïté entre vous?
Si.
Il est homosexuel?
Oui.
Ok.
Et...
Il t'envoie quand même quelques signaux?
Ouais, ouais. Et puis moi, je pense qu'il est amoureux.
Ok.
Parce qu'on se parle beaucoup, on se voit beaucoup, mais... Et donc, je suis persuadé qu'il est très amoureux et que du coup, en fait, on va être bientôt ensemble. Oui, c'est un peu ambigu. On dort dans des pièces, dans des soirées, machin, pas loin. Enfin,
mais vous flirtez pas.
Mais on flirte pas. Ben pour l'instant, je suis trop gros pour lui.
Mmh. Ouh, donc, c'est mal.
Ouais, c'est très mal parce que tu vas voir, je perds.
On
n'aime pas du tout. Je vois qu'il y a une très belle couverture du Télérama.
Oui, il y a la couverture avec Leslie, Barbara Butch, Télérama, qui est une amie et que je soutiens profondément.
Voilà, donc ça c'est génial. Et donc moi, je perds énormément. Mais vraiment, donc 30 kilos.
Mais en très peu de temps, du
en
coup.
En 4 mois.
Oh, ouh là là.
Donc, de septembre à décembre, je rentre chez moi en décembre. Ma mère s'évanouit à la gare se disant, mais parce qu'on ne s'est pas vu, on ne s'est pas fait de Skype, machin, je ne leur ai rien dit.
Surtout que Canada, États-Unis, bon, pour connaître un peu, ce n'est pas là où tu perds facilement en
non,
plus. Non, hein.
Normalement.
Tu reviens un peu plus paupiette, quoi.
Et parce que c'est une bonne chose, quoi. C'est de la sirop d'érable, du pancake, machin. Et donc, quand même, changer de ça et persuader qu'on va, avec Tommy, c'est parti pour la vie, alors qu'on ne s'est jamais embrassé. Mais je ne sais pas, je suis dans le fait de ne pas manger, c'est vraiment très mal parce que du coup, je ne sais pas, je suis dans.
Tu n'es plus dans la réalité.
Non, je flotte complètement et je
dans tes fringues, dans ta tête.
Ouais, complètement. Et je me dis juste, bon, bah, en janvier, c'est parti, on va s'installer ensemble et tout. Et là, j'apprends que lui, il ne reste pas à Montréal. Il part ailleurs, je ne sais plus où. Et il me dit, bon, du coup, on ne va plus se revoir. Bisous, bisous. Bonne route à toi. Et moi, je suis dévasté parce que je suis amoureux, quoi. Donc,
il a su ça ?
Il n'a pas su, non. Il n'a pas su.
Donc, tu as vécu ton amour et ton chagrin d'amour seul.
Ouais.
Et ta perte de poids.
Et ma perte de poids tout seul, pour lui, pour rien, du coup.
Milou avait pris comment cette rupture ?
Oh, bah, pas bien. Pas bien. Et ce qui est... Donc, avec Milou, on se retrouve en quatrième année. Donc, c'est là où on revient en France. Et avec Milou, on essaye de se remettre un peu ensemble. Parce que, exit Tommy. Et puis, bah, un truc qui est cassé, je le raconte pour Tommy. C'est une fille géniale, c'est pas que ça la dérange, mais elle sent que. Ouais, il y a quelque chose qui nous a éloignés, qui est un peu fini. On essaye vraiment. Hein,
vous refaites l'amour ?
Ouais. C'est un peu moins bien, du coup, il y a. Il y a quand même des choses qui sont un peu finies et puis je veux pas l'empêcher de rencontrer des gens et moi de rencontrer des gens et moi comme il y a eu Stomy je me dis on va peut-être aller voir dans le monde gay s'il y a pas quelqu'un et là
tu te définis à ce moment-là
non je me définis jamais dans la sexualité je trouve que c'est très enfermant.
Parce que c'est ce que tu me disais dans nos échanges, c'est que aujourd'hui, tu parles d'une bisexualité.
Ouais.
Mais finalement, c'est plus une question de personne.
Ah, complètement.
D'après ce que je comprends.
Ah ouais, ouais. C'est vraiment des gens qui m'inspirent. Et là, justement, donc je cherche
tu vas quand même explorer.
Chez les hommes.
Ouais.
Je vais explorer pour. Parce qu'avec Tommy, ça ne s'est pas fait. Donc du coup, je n'ai pas mon expérience.
T'as la frustration de ne pas avoir.
Ouais, complètement. Et je tombe que sur des gens, mais inintéressants. Voilà, je tombe mal, bien sûr. Et je me dis, mais c'est quoi ça, quoi ?
Comment tu rencontres ces garçons ?
Oh, bah, dans des bars, à Sciences Po, dans des soirées. Et ouais, je tombe que sur des gens qui ne m'inspirent vraiment pas, avec qui il n'y a pas
T'as pas envie de partager, quoi ?
Non. Ouais, c'est un peu une période très calme sexuellement, du coup, en y repensant, à 22, 23, jusqu'à ce que je rencontre l'actuel.
Ah, l'actuel !
L'actuel.
Donc l'actuel, tu le rencontres à quel âge ?
Je le rencontre à 22 ans, 22, 23.
D'accord, donc ça va faire presque 10 ans que vous êtes ensemble. 8
ouais,
ans.
Ouais, c'est ça.
8 ans. Donc un garçon.
Ouais.
Qui s'appelle
Julien.
Julien. Et donc c'est Julien qui va être le premier homme de ta vie.
Ouais.
Et comment se fait cette rencontre ?
Alors cette rencontre, elle se fait par une asso qui bosse sur, en gros, la coexistence des religions, enfin la, la transmission interconfessionnelle, tout ça. Sauf qu'à ce moment-là, je commence un boulot d'assistant parlementaire.
Et comment, qui fait le premier pas? Julien homosexuel?
Ouais, c'est lui. C'est lui qui m'écrit. Moi, je me fais un peu désirer à ce moment-là. Et puis, on fait une soirée chez des amis. Et en fait, je tombe amoureux de son écriture en premier.
Oh, c'est joli.
Il écrit dans un musée. Il écrit dans le Livre d'Or. Et l'écriture est dingue. Avec les lettres, tu sais, les lettres majuscules faites à l'ancienne. Et puis, je le trouve brillantissime. Il est. Donc, pareil, la personne, quoi. Parce qu'une culture incroyable. De l'érudition, de l'intelligence. Et voilà. Donc, je tombe amoureux de cette personne. Vraiment, ouais.
Et donc, comment va commencer votre vie intime? Est-ce que c'est quelque chose que lui va un peu driver? Parce que du coup, toi, tu n'as eu encore aucune histoire avec un garçon.
Complètement. Moi, je le fais attendre.
Évidemment.
Beaucoup. mais vraiment beaucoup. Hein, pour les gens de notre âge, c'était beaucoup. Et là, pour le coup, c'est pas mal de peur, je suis pas serein.
T'as peur de quoi? De cette sexualité ou de cette sexualité avec lui, de la déception?
De cette sexualité que je connais pas.
Est-ce que tu te renseignes un peu? Est-ce que tu vas voir du porno gay? Est-ce que tu vas un peu chercher des référents qui vont te permettre peut-être d'explorer ou en tout cas de comprendre comment ça marche?
Je discute avec des copains, je me renseigne sur tout ça et donc bon, petit à petit, je me dis que je vais être prêt et qu'il faut le faire et ça se passe très bien. J'ai très peur et j'ai beaucoup de mal en fait parce que depuis Milou, du coup, il y a eu un gros trou en fait et je sais plus ce que c'est que d'être touché. Lui, il pense que je suis un peu un enfant battu parce qu'il y a vraiment un côté de moi qui est très en recul. J'ai assez peur. Ça me surprend qu'il me dise ça. Et en même temps, je me dis, c'est vrai que...
T'as des réactions à épidermie quand il y a des élans de tendresse, des choses comme ça.
Ouais, je me protège beaucoup.
Tu fuis un peu le contact à ce moment-là.
Ouais, je mets du temps avant d'être à l'aise et puis de fil en aiguille les choses vont bien et les premiers mois c'est très bien
et alors quand tu sens forcément tout déflorer de votre intimité, mais comment c'est le sexe avec un homme, parce que du coup tu auras pu comparer?
Ouais, je vois pas d'énormes différences. Non, franchement, je trouve ça vraiment bien, mais sans me dire, comme plein de gens que je connais très misogynes et qui très souvent, soit ils sont misogynes, soit ils détestent le corps des femmes et ils sont très... Ça m'énerve profondément, là. Et moi, non, du coup, j'ai pas ce truc de « Ah, mais non, en fait, les femmes, c'est vraiment les hommes et tout.
Oui, »
Ça dérange un peu Julien.
Pour être un peu trivial, il y a effectivement certains mecs homo, genre « Ouais, de toute façon, les femmes, elles savent pas sucer parce qu'elles savent pas... » Enfin, il y a toujours ce truc de dénigrement.
Puis ils aiment pas le corps des femmes.
Voilà, c'est ça.
Moi, j'aime bien le corps des femmes et j'aime bien le corps des hommes. Mais je mets pas de hiérarchie, j'ai pas l'impression d'avoir trouvé la martingale, quoi. De me dire, waouh, c'est formidable, en fait, c'était ça. Ça, c'est ce que je dis, passe très très mal et peu dans la communauté gay.
Le fait que tu ne dises pas que tu t'es trompé avec les femmes et que t'as tout autant aimé,
ouais,
je comprends.
Et je dis pas non plus que c'est extraordinaire et que du coup je vais en faire le centre de ma vie. Enfin, y a aussi un truc qui se prend un peu de distance aussi par rapport à ça. C'est pas incroyable, surtout qu'au fur et à mesure je sens que Julien, il y a eu la passion des débuts, mais que c'est un peu la blague du Coca, tu sais, Coca, Coca Light, et nous flirtons assez vite vers le Coca zéro, Coca pas beaucoup, et donc assez vite, on s'entend super bien, on a vraiment dans ces couples qui cherchent l'harmonie, qui cherchent pas le conflit, qui sont vraiment dans la cohabitation et dans quelque chose de très doux et de très bienveillant. Et c'est vraiment le sujet sur lequel on commence un peu à s'écharper, où moi je dis mais en fait on s'est pas rendu compte parce qu'il y a eu ça et ça, et lui il bosse beaucoup, il fait une thèse et tout ça, et je dis mais finalement on a laissé passer 3 semaines alors que c'est quand même plutôt les débuts. Et je me dis aïe, c'est dommage quoi, que j'avais jamais vu avec Milou pour le coup, et je sens que qu'il en a moins envie, et voilà, il faut gérer ça, c'est-à-dire que...
Donc là, vous avez quoi, 25 ans à peu près ?
Ouais, c'est ça, ouais, 25-26, et il faut gérer, on est en pleine forme, tout ça, et il faut juste gérer l'autre qui dit, non, moi ça me tente pas. Ouais, et en plus, et il a raison, et il cherche pas trop d'excuses. Ça qui est... Parce qu'on a plutôt tendance à se justifier dans ces cas-là, et lui, non, il me dit juste, non, j'ai pas envie. Et il me dit pas non plus, mais tu sais, je t'aime très fort, et il me rassure pas tant que ça. Il me dit juste, non, j'ai pas envie. Donc c'est dur quand même, parce que tu m'as pas vu, mais à l'époque je suis quand même mignon.
Attends, mais tu es toujours excessivement beau.
Non, mais ouais, t'es adorable, mais non, mais en vrai, c'est vrai que je me sens bien dans mon corps.
Ça te fait perdre confiance en toi, ça ?
Ouais, un peu, et puis surtout, je comprends pas, donc j'essaye d'en parler avec lui. Moi, je vais voir une psy. Pour lui dire, je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à faire de notre quotidien, de là où on vit, l'espace de la sexualité. C'est-à-dire que ça marche en vacances, ça marche dans un autre lieu, quand il y a de la nouveauté. Et par contre, on n'est pas les seuls, je crois.
Ce que j'allais te dire, il y a énormément de couples qui fonctionnent comme ça.
La chambre, en plus à l'époque, on est en coloc, même après... La chambre, le lit, c'est un espace où on se parle, où on rigole, où on fait plein de trucs, mais ça n'arrive pas à être vraiment le lieu de la sexualité.
D'accord.
Et puis, on a des petits, comme beaucoup de gens, des petits pépins de santé, et lui, il bosse beaucoup. Et donc, il y a quelque chose où on a du mal à refaire cette théâtralité érotique, ce truc de faire des efforts. Et pourtant, on sait, mais on a envie. Mais
ça, vous l'avez quand même conscientisé, tout ça. C'est quelque chose auquel toi, t'as déjà... Enfin, vous en parlez, t'y penses, etc. C'est pas
surtout moi.
Surtout toi. Je veux dire, c'est pas un non-dit entre vous. Non. Il n'y a pas un mouchoir dessus. C'est pas un tabou entre vous. Enfin, quand même.
C'est moi, du coup, je...
Parce que si tu vois une psy, c'est quand même que c'est...
Moi j'en parle beaucoup avec des copines, avec ma sœur, qui est psy aussi. Moi, j'en parle beaucoup et on a du mal à en parler. On en parle un peu. On a un peu de mal à en parler et il me dit, ouais, mais c'est pas grave, tu vois, c'est pas dans la vie ce qui est le plus important.
C'est pas quelqu'un de très sexuel.
Non, pas du tout. C'est quelqu'un okay. qui...
Ça arrive.
Voilà.
Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que beaucoup, encore une fois, des espèces de généralités, les hommes ont une forte libido, les hommes entre eux, deux hommes entre eux, c'est tout le temps, tous les soirs, etc. Et en fait, non, c'est ok aussi si t'as pas une super forte libido... Si t'es un homme, si t'es en couple avec un homme, ça peut arriver. Et en fait, il faut juste dealer avec ça.
Exactement. Et je me rappelle de quand j'annonce aux gens que je suis en couple avec un homme, ils mettent le film en marche.
Bien sûr.
Le film de la fistinière. et de trucs les plus extrêmes. Voilà, oui. C'est le cliché. Alors que nous, on a une sexualité très vanille, complètement. Et on l'assume et on trouve que c'est chouette. On est d'ailleurs en décalage avec pas mal de gens, de nos copains, etc. Parce qu'on voit bien qu'on vit pas les mêmes choses et que
vous fréquentez pas du tout les milieux gays, sexe gay, les dépôts, les boîtes un peu, des soirées un peu alternatives, etc.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Moi, ça me commence à me titiller en me disant il y a l'air quand même d'avoir des trucs drôles. Et Julien, pas du tout. Mais vraiment.
Il a une thèse à faire.
Il a une thèse.
No time.
Il a des. Non, mais bien sûr, il a pas le time de tout ça. Et puis, c'est quelqu'un qui, en plus, buzz dans ses recherches beaucoup sur sur le gender et tout ça, enfin sur le sur le genre, et ça qui est hyper intéressant. Et malgré tout, c'est quelqu'un qui a quelque chose d'assez classique là-dessus. Mmh. Et qui est trop content que les autres fassent absolument tout ce qu'ils veulent. Mais moi, ça commence à me dire, oui, ça a l'air quand même d'être cool, tout ce qui se passe. Et, mais moi, j'ai un tempérament hyper, hyper loyal, hyper, voilà, on est très amoureux, on est ensemble et tout ça. Donc, il n'y a pas trop de transgression de la norme. Mais quand même, petit à petit, c'est.
Oui, c'était de l'ordre du fantasme. Et au fur et à mesure, ça va prendre un peu plus de place.
Voilà. Et je tâte le terrain auprès de Julien et je sens que ce ne sera pas dramatique de sous-traiter un peu, comme tu...
J'aime tellement cette expression. Donc, sous-traiter, donc tu as fait un petit appel d'offres sur le marché.
Voilà, et c'est vrai que... alors là, il y a notre ex, c'est par contre de ne pas en parler. Ça dépend beaucoup des couples. Des couples qui se racontent, dans une forme un peu de polyamour, qui aiment bien savoir et tout ça. Et nous, c'est vraiment de pas savoir.
Il y a des couples à qui ça excite ou que ça, en tout cas, c'est le deal, le contrat est ainsi fait, on se raconte. Et vous êtes parti du principe que ce qui se passe en dehors de notre couple, ça, c'est chacun son jardin secret.
Ouais. Exactement, et que par contre, on met pas en péril l'équilibre, on fait pas n'importe quoi. Enfin, il faut que ça reste dans l'exceptionnel. Il faut qu'il y ait, c'est pas le gars que tu ramènes chez toi à 16h et Julien rentre plus tôt
et il le croise.
On n'est pas du tout là-dedans.
Vous posez vraiment tout ça ensemble? Vous posez vraiment toutes les questions, vous faites un dîner où vous dites, bon alors, on fait comme ci, on fait comme ça, le contrat s'établit entre vous ou ça va se faire un peu au fil des discussions?
C'est au fil des discussions. Okay. On ne veut pas graver les choses dans le marbre. C'est un sujet, c'est vraiment, on parle de tout, tout, tout. Et là, c'est le sujet sur lequel on met beaucoup de métaphores, d'allusions, de périphrases. Donc, je pense qu'on s'est compris, mais ça n'a jamais été... très explicite et après c'est vrai qu'on a tellement envie que ça marche et parce que moi je suis très amoureux et je crois que lui aussi on veut vraiment que ça marche simplement est-ce que justement ça marche aussi bien et autant parce que il y a pas vraiment la sexualité, ce qui serait complètement contre-intuitif, mais je dis pourquoi pas.
Ok.
Peut-être pas, hein. Peut-être que je me plante complètement, ce serait encore 10 fois mieux si on avait en plus la case sexualité épanouie et moins très épisodique. Mm-hmm. Et en même temps, je me dis pourquoi pas.
C'est vrai que, comme tu dis, c'est contre-intuitif, mais en même temps, peut-être que c'est ça votre clé à vous, votre mode d'emploi. Donc vous décidez, enfin en tout cas, de façon bien amenée, très chic, comme j'imagine chez vous, d'ouvrir un petit peu les portes de votre loyauté, entre guillemets, même si vous restez très loyaux l'un envers l'autre. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que Julien fait la même chose déjà?
Je crois pas.
Il a le feu
vert. Du coup, comme on ne se raconte pas, c'est comme on disait, c'est pas quelqu'un de très... qui va rechercher ça, donc... Donc je sais pas, et lui je pense pas qu'il puisse
si je lui posais la question, il ne saurait pas répondre.
Non.
Donc toi comment ça se passe? Là il va savoir du coup s'il écoute.
Oui, là du coup il va savoir, je pense qu'on du coup on en parlera. Et ça se passe que c'est vraiment pas souvent. Enfin, il y a vraiment quelque chose de il faut que ce soit dans un moment où ça prolonge un moment avec quelqu'un dans un truc un peu d'exceptionnel. Mais il n'y a pas d'appli, il n'y a pas tout ça.
Ça t'euphorise, toi, le fait de savoir que tu peux transgresser un peu? Ça te fait du bien de savoir que tu peux, même avec toi-même?
Ouais. Et le plus souvent, quand ça ne va pas du tout au bout. Quand c'est juste des échanges ou quand c'est juste une soirée où on a un peu flirté et tout ça, je dirais que c'est quelque part, moi, ça me comble à 95%.
D'accord. Finalement, l'acte sexuel en lui-même, c'est pas tellement ça qui te manque.
Très souvent déceptif. Parce que quand c'est une rencontre dans un one shot, comme on se connaît pas et tout ça, et qu'on n'est pas, et que moi je suis pas toujours hyper à l'aise, je trouve que très souvent c'est assez décevant. Et qu'au contraire, hyper excitant de sentir qu'on plaît à quelqu'un et qu'il y a du flirt Et oui, ça par contre, pour moi, c'est hyper important. Mais le tout le tintouin, le machin, c'est moins ça. Mais du coup, cette possibilité qui a été ouverte, j'en souffrais pas mal avant. Maintenant, elle permet de me sentir mieux par rapport à ça, parce que justement, il y a une possibilité. Il y a un extérieur.
Donc tu ramènes ta frustration, en tout cas ressentie au sein de ton couple, et du coup beaucoup plus apaisée,
ouais.
Étant donné que tu as cette possibilité, si vraiment tu as besoin,
ouais.
D'avoir un amant, une maîtresse.
Ça pourrait, ça s'est pas encore trouvé, parce que c'est aussi un truc qui, comme moi j'ai toujours que je suis en couple, je triche jamais là-dessus. Quand tu dis que tu es en couple avec un homme, ben c'est quand même un peu...
Oui.
Ouais, j'aimerais bien du coup pouvoir avoir cette expérience-là. Ouais, complètement, je fais un pas à la porte.
Alors, ce qui serait très intéressant, parce qu'il existe ces hommes en couple, d'ailleurs c'était Vincent qui en avait parlé, qui appelle ça les hétéro-curieux, les fameux... Coucou Vincent, si tu écoutes. Et c'est vrai qu'il parlait de ça, que lui, il a été l'amant d'hommes mariés qui avaient envie d'avoir effectivement des expériences homosexuelles. Moi, j'ai pu constater dans mon entourage des couples de femmes qui s'annoncent comme telles et des hommes, tu sais, ceux avec la grosse testostérone qui ont envie de montrer que ça va être mieux avec un mec.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça doit exister évidemment, mais je connais un peu moins le schéma d'une femme qui va aller draguer un homme en couple avec un autre homme. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être effectivement intéressant pour toi, en tout cas.
Ouais, intéressant dans cette... Moi, c'est toujours la construction du plaisir, des expériences et de... Et du coup, je me mets pas de barrières ou de tabous par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on aime bien un peu cloisonner. C'est vrai que... Ouais, moi, je serais pour vraiment ouvrir ces catégories.
Qu'est-ce que t'aimerais essayer aujourd'hui ?
J'aimerais bien essayer avec Julien une histoire à trois. Enfin, pas une histoire, déjà.
Ouais.
Une nuit, déjà. Non, pas une histoire du tout, en fait.
Avec un autre homme ?
Plutôt avec un autre homme. Je pense que Julien serait pas ouvert avec une femme, donc ce serait avec un autre homme. Je pense que ce serait chouette.
Mm-hmm.
Et ce serait une... je pense que ça pourrait nous faire vraiment de bons souvenirs et et un joli moment. Donc ça, après, dans les découvertes, je sais pas, je suis quand même très vanille, hein, comme je te disais. Donc il y a plein de trucs dans le fantasme où je me dis un truc avec plein de gens... justement, un différencié homme-femme, mais juste dans le recherche du plaisir, je suis là. Oui, en théorie, ça a l'air vraiment cool.
Grande réunion comme ça de plaisir mélangé.
C'est ça, une belle soirée. En pratique, je suis vraiment pas sûr, quoi. Mais pourquoi pas, ça pourrait. On se dit souvent avec Julien qu'en vieillissant, on va devenir de plus en plus rock. On a commencé un peu installé.
Autour de la trentaine, de vous ouvrir un peu à ça.
C'est ça, qu'on va se droguer, mais beaucoup plus tard.
Il a quel âge, Julien ?
Il a 38.
D'accord, vous avez 7 ans de différence.
Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'y reviens, mais on a encore un peu de mal à évoquer ce sujet de la sexualité, du coup, à pouvoir soit concrétiser, soit ouvrir des fantasmes et tout. Et je pense que c'est vraiment notre résolution des années 20.
Mmh.
C'est qu'il va falloir qu'on arrive à rendre ce sujet plus ludique, plus fun, à pouvoir en parler avec moins de d'affect ou de peur.
Qu'est-ce que vous avez peur ? Est-ce que tu serais capable de définir la crainte que vous avez d'en parler ? Est-ce qu'il y a une forme de pudeur l'un envers l'autre ? Est-ce qu'il y a la peur ou la crainte en tout cas de descendre un peu du piédestal j'ai l'impression en tout cas sur lequel chacun est par rapport à l'autre ? Parce que t'en parles avec, t'as les yeux qui brillent, comme si c'est... Enfin,
oui, moi je
on
suis...
On sent vraiment qu'il y a une admiration de l'homme de ta vie. Il a sûrement la même, j'imagine. Est-ce que c'est ça ? C'est cette crainte un petit peu de n'être que des... Je vais des guillemets, mais des êtres sexuels, finalement.
Ouais, je pense qu'on a du mal à passer du cérébral à quelque chose de plus physique, de plus corporel.
Est-ce que votre sexualité ne serait pas plus définie, si vous avez envie de la définir, sur une sapiosexualité peut-être ?
Ouais, sûrement.
Mmh. Est-ce que c'est ça peut-être qui vous attire l'un envers l'autre ?
C'est tout à fait ça. Et c'est très difficile de passer sur... surtout lui qui est quelqu'un de vraiment très intellectuel, j'imagine, de passer dans quelque chose de plus corporel, d'écouter ses sens, ses envies, etc. Je pense que c'est pas si facile et qu'il y a plein de blocages que moi j'ai envie un peu de lever. Je pense qu'on en a levé un petit peu et que ça fait quand même des frustrations et ça fait des choses que du coup on partage pas. Et c'est dans le fait d'en parler, c'est comme si c'était une conversation qui était un petit peu vulgaire. Enfin, je ne pense pas du tout. J'adore ce sujet, mais il y a quelque chose où ce serait pas pour nous. Où ce serait voilà. Mmh. Et je pense qu'il faut qu'on mûrisse là-dessus.
Oui, sans votre couple se positionne un peu au-dessus de quelque chose qui pourrait être
ou en dehors. Enfin, oui. Parce qu'au-dessus non, parce que je pense que c'est ça crée quand même. Il le sait, des souffrances et des trucs. Donc, non, je pense qu'on ne se met pas au-dessus. Je pense qu'on a du mal à... Sur d'autres plans, notre couple va bien. Mais que sur ce plan-là, je le dis un peu de temps en temps de manière sibylline. Mm-hmm. Mais je dis, là, ce n'est pas notre domaine.
Mais pas au top, quoi.
Ouais, je pense qu'il faut que tous les deux, on se... Et la question des couples qui durent, comme tu disais, 9 ans, 10 ans, je ne sais plus exactement, c'est toute la question de recréer du désir, d'enlever ce vilain jogging...
qui vraiment n'est pas flatteur.
Qui n'est pas flatteur pour personne. Netflix, on adore.
Mais ça abîme, hein.
En tout cas, de pas... mentir sur le fait que c'est pas que la fatigue, c'est pas tout ça, c'est pas que Paris, c'est aussi une envie. Mais je le prends à 50-50, je me dis pas c'est lui. Mmh. Comme ça, je me dis pour l'instant, c'est un truc qu'on a vraiment à progresser là-dessus. Ouais.
Donc là, c'est votre sexualité actuelle avec Julien. Ah oui, c'est ça que je voulais te demander. Est-ce que Julien a eu des histoires avant toi, longues ?
Oui, une.
Une ?
Ouais, qui remonte maintenant, du coup, mais oui. Je crois que ça a duré un an ou un an et demi.
Mais du coup, c'est pas un homme qui a eu... Parce que c'est ça qui aurait pu être... Qui aurait posé... soulevé en tout cas plusieurs questions. C'est pas un homme qui a eu quelques années d'appli, de surconsommation de sexe, etc. Et qu'une fois avec toi... Non, ça a toujours été, chez lui, une libido plutôt... calme,
ouais.
et des pratiques plutôt vanille et sans une quête de sexe, tu vois, folle.
Ça. Et dans le
deal, il
est profondément comme ça. Et dans le deal, c'est d'accepter ça. Mais oui, non, mais je suis trop amoureux de toute façon.
C'est quoi le rapport masturbatoire que tu as aujourd'hui, toi ?
Moi, j'ai quand même des petites cystites.
D'accord.
On n'en parle pas beaucoup chez les hommes.
C'est vrai que c'est rare.
Du coup, c'est rare et les gens, c'est toujours l'objet de grandes blagues. Pas drôle du tout. Enfin,
surtout que ça fait j'ai super mal.
Merci.
Oh là là.
On connaît du coup. Ça brûle. Hein.
Mais c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Il faut imaginer faire pipi des lames de rasoir. Je pense qu'à partir de là, tout le monde fait « oui ». Et ben c'est ça.
Et donc c'est quelque chose qui donc moi je sais qu'il faut attends, je peux entrer dans les détails scabreux, non, mais disons qu'il faut que ce soit je pense comme pas mal de femmes pour le coup, là je m'identifie pas mal s'il y a une douche avant, après,
bien
ou
sûr.
Après que dans un endroit propre, même ma masturbation, parce qu'il y a des gens, je vois, on me raconte masturbation, ça peut être n'importe où, ça peut être au boulot, ça peut être... Moi, pas du tout. Il y a un rapport, masturbation, ça va être dans un lieu cool, mais il faut qu'il y ait un...
aseptisé, ouais. Quoi. Il faut que ce soit sous la douche, propre, etc.
Ouais, et ouais, pour éviter ces vilains trucs. Et en tout cas, ouais, j'ai pas un rapport frénétique à la masturbation. Du tout. J'ai découvert le naturisme il y a peu de temps.
Ah.
Et je trouve ça chouette.
Mm-hmm. Tout seul
Ouais, sans Julien, mais par contre, J'ai découvert ça plutôt voilà dans à la plage, dans des lieux chouettes. J'ai l'impression que ça m'a je pensais que ça allait m'érotiser, tout le monde était là, oh là là,
oui.
Incroyable, ce petit chaud lapin de Max. Et en fait, pas du tout, au contraire, c'est plus quelque chose où on prend soin de son corps, on veut se faire du bien.
C'est une vraie thérapie pour le corps, hein, le naturisme. Hein. Et pas du coup pour le sexe ou la libido, à part des endroits très spécifiques comme le Cap d'Agde.
Bien sûr.
Qui, pour le coup, si tu as des cystites, n'y va pas,
non.
Vraiment.
Non, je crois pas.
On le déconseille.
J'ai lu deux, trois témoignages, et surtout des nanas qui sont allées.
Oui, non.
Des femmes qui sont allées, c'était quand même très glauque.
C'est assez
pas
glauque.
Très glauque, non. Faut pas. Non,
ah,
non.
Ça peut l'être sur la baie des cochons, la fameuse. Mais c'est vrai que le naturisme a ça d'extraordinaire. C'est que tu te réconcilies avec le corps, la nature, le corps de l'autre, les corps vieillissants, les corps plus jeunes. Et ça désérotise.
Ouais.
Ça désexualise presque. Et c'est vrai que c'est une bonne thérapie ça, pour être avec soi-même.
Et moi, c'est vrai que dans ce moment où je commençais un peu à regarder ailleurs, j'ai une copine qui m'avait dit ce truc de body temple, de son corps, d'en prendre soin, mais pas que sur la sexualité, sur les histoires aussi de régime, de sport à outrance, ou voilà, en tout cas de respecter son corps, de l'aimer, ça m'a parlé à fond. Je trouve que c'est la sexualité fait partie de ça, mais toute cette recherche d'être bien dans son corps, d'être
en harmonie,
de s'aimer. Moi, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit t'es pas mal, que ce soit des hommes ou des femmes et tout ça. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que l'image que j'avais, c'était déjà toujours pendant longtemps celle de 30 kilos de plus. Donc, de celle d'avant, j'ai encore beaucoup de mal, 10 ans plus tard, plus de 10 ans, Tommy et le Canada, à voir ce corps comme il est maintenant,
qui est
plus du tout le même.
Qui est mince, oui.
Et à voir des choses chouettes chez moi. Et je me dis, ça, c'est quand même. Donc, je pense que dans ces questions sur la sexualité, c'est d'abord la question de comment je me trouve. Est-ce que je me plais? Est-ce que je m'aime? Et j'avais ce truc de vision positive de son corps, mais je trouve que c'est hyper important. Quoi.
On arrive à aligner effectivement son esprit, son corps, être OK avec son harmonie, avec sa différence, quelle qu'elle soit, grand, mince, plus rond, plus petit, différent, c'est intéressant. Ouais, effectivement. Et c'est vrai que tout ce mouvement du body positive clame ça et prône l'acceptation de son corps, accepter qui on est, comme on est, et se rendre service en se faisant du bien par la nourriture, par le sexe, par le sport, par la nature, par le regard qu'on a sur soi. C'est hyper important. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'est pas tellement habitué à ça. Hein.
Mais ouais, et dans la communauté, s'il y a une communauté, encore une fois, dans les gens qui sont certains, qui sont gays, y a tout ce truc du corps parfait, de la performance,
culte, oui.
De se faire mal, mais quand même que c'est bien, parce que d'accepter beaucoup de choses et tout. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout dans cette philosophie-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne comprends pas pourquoi on devrait avoir mal pendant le sexe. C'est un truc de base. Mais c'est vrai que beaucoup de gens me disent...
Après, tu sais, c'est toute une... Alors, la question, elle n'est pas... Enfin, elle n'est pas... Encore une fois, hein, mais c'est pas avoir mal pendant le sexe, c'est qu'est-ce qu'avoir mal et qu'est-ce que le plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose qui fait du bien, mais parfois la souffrance fait du bien.
Ouais.
Ça, c'est encore une fois une histoire de curseur. Il y a des gens pour qui la référence du plaisir va être la douleur. C'est pas la souffrance, c'est la douleur.
La douleur, ouais.
Tu vois, qui fait du bien. Et donc, du coup, c'est là où, effectivement, quand j'interviewe des hommes qui pratiquent ou le SM, le BDSM, certains ont fessé jusqu'à ce que leur partenaire saigne des fesses. Et toi, tu te dis, what? Mais ça doit faire mal. Ouais. Mais le curseur de cette femme ou cet homme, en l'occurrence, qui reçoit la fessée, c'est celui-ci, cette douleur. L'excite, lui fait du bien. Donc, on peut comprendre de façon un peu philosophique la souffrance dans le sexe, mais pourquoi ? Mais pour certains, cette souffrance égale la douleur et la douleur égale leur plaisir. Donc,
bien sûr. Et c'est vraiment pas quelque chose que que je juge
oui, bien sûr.
Ni rien, mais qui moi me et c'est pour ça que le on n'a pas encore parlé, mais du coup la sodomie c'est quelque chose. Dieu sait que je me suis renseigné, informé, j'en ai parlé avec les gens. Je trouve, et je le dis, que c'est quand on est donc passif que ça fait très très mal. Et c'est vrai que non, mais là c'est aussi un travail. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens pour qui ont, au bout d'un moment, ou même qui ont pas mal. Mais donc, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux pour l'instant. Alors, des fois, j'arrive à aller au-delà de cette douleur, mais c'est très rare.
Mm-hmm.
Et là, on trouve quelque chose qui, du coup, est génial parce qu'on arrive à dépasser, pour moi, arrive à dépasser ça. Mais le plus souvent, c'est juste...
Mmh.
Au bout de 10 secondes, je dis non.
Après, il y a une question de morphologie parfois.
Oui.
Tout simplement, il y a, alors que ce soit homme ou femme, hein, ça c'est. Après, il y a aussi une question d'envie. Effectivement, il y a une préparation qui peut se faire, mais elle correspond pas à tout le monde. Il y a des gens qui adorent ça, d'autres qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui sont capables physiologiquement à des performances assez incroyables,
ouais.
Et d'autres pour qui ça peut pas du tout rentrer jamais.
Ouais.
Donc encore une fois, sur l'échelle de la sexualité et de la pratique, personne n'est fait pareil.
Ouais.
Donc effectivement, si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc, tu vois.
Ouais.
Mais c'est vrai que t'as raison de le dire, et je pense que ça va peut-être soulager beaucoup de gens qui t'écoutent, parce que, et ça c'est un truc qui est très important, la sodomie n'est pas une obligation.
Non.
Comme la pénétration vaginale dans un rapport hétéro n'est pas une obligation. Oui. C'est l'image qu'on s'en fait, pareil, dans notre inconscient collectif. Un rapport, c'est des préliminaires, quelle horreur ce nom, et un coït
oui.
vaginal et une éjaculation, et c'est terminé. Et pour les hommes, c'est un passif, un actif, une sodomie, et basta.
Mm.
Alors que pas du tout.
Non.
Il y a tellement d'autres choses, tu vois. Mais c'est vrai que quand on n'a pas forcément la notice, il faut déconstruire ça, parce qu'on va forcément dans ce qu'on imagine être le mode d'emploi, ou en tout cas, tu vois, la suite logique. Et effectivement, on a le droit, on a tous les droits, mais c'est OK aussi si t'es homo et que t'aimes pas la sodomie, ni la pratiquer, ni la recevoir aussi.
Ouais.
C'est possible, hein.
Ouais.
Mais c'est chouette de le dire, tu vois, Max, parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui vont se dire « Ah ouais ?» Ah bon, cool.
Ouais, et par contre d'aller chercher d'autres choses, et mais moi je sens que ce soit en actif ou en passif, c'est quelque chose qui est assez kiffant. Je trouve que c'est assez cool,
mm-hmm.
mais c'est plus, et j'en parle avec pas mal de gens, on n'a pas tous les mêmes blocages, et en fait moi venant d'une famille, on n'a pas trop parlé, mais assez ouvert sur la sexualité, et où en fait les blocages, je me les suis mis... moi-même ou ailleurs, et donc ça, je trouve ça intéressant qu'en fait on pense qu'on est on est cool,
mm-hmm.
Parce qu'on a beaucoup lu, parce que
nos idées sont plutôt open, etc.
Voilà, et que c'est le travail de, c'est soi avec soi en fait.
Bien
la
sûr.
Sexualité, et du coup tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut aussi nous donner comme chose positive, de libération du corps, etc. En fait, c'est une expérimentation soi-même, de soi à soi. Et c'est un truc...
À un moment donné, alors après, ce que je dis, vraiment, ça ne regarde que moi, mais à un moment donné, il faut aussi se laisser tranquille.
Ouais.
Si ce n'est pas ton truc, ton moment, ta pratique, eh ben, en fait, il faut trouver d'autres solutions, d'autres clés. Peut-être qu'en fait, le chemin... Il n'est pas aussi direct. Peut-être qu'il est un peu plus, sans jeu de mots, sinueux. Mais en fait... Finalement, c'est ce chemin qui est intéressant. C'est pas tellement l'aboutissement du chemin, est-ce qu'il y a au bout. Et ça, c'est valable sur tout, hein, que ce soit ta vie pro, amoureuse, sentimentale, sociale, tout ce que tu veux. Ce qui est intéressant, c'est le chemin, ce que t'en fais. Donc peut-être que il faut pas se forcer. En tout cas, je crois que c'est vraiment le plus important.
Ouais.
Il faut pas se forcer à pratiquer quelque chose qui ne nous satisfait pas, ne satisfait pas du coup généralement le partenaire en face, et surtout n'est pas source de plaisir. Donc qu'est-ce que tu te souhaites demain sexuellement ?
Alors, ce que je me souhaite, c'est moins d'appréhension, plus de ouais plus de fluidité de ouais du corps qui est comme ça et que et c'est très bien parce que c'est le mien et que et qu'il sera pas parfait et que c'est comme ça ouais et se laisser plus toucher désirer entendre vraiment quand quelqu'un dit que il a vraiment envie et que tu lui plais vraiment et je sais pas c'est peut-être ça c'est fou, moins de comme tu dis on est obligé de rien mais moi c'est un truc que j'aime bien et qui m'intéresse et donc il faut enfin c'est pas il faut mais c'est que j'ai envie de découvrir des choses et de me laisser un peu embarquer ouais, par de nouvelles sensations, par des découvertes. Ouais.
Ok. C'est quoi le mot de la fin ?
Le mot de la fin, c'est les cases, on s'en fout. Les étiquettes, on s'en fout. Soyons heureux, il faut prendre tout ce qui vient quand c'est bien.
Super. Bah, merci, Max. Merci infiniment pour votre écoute et merci à Max de s'être prêté au jeu. J'ai trouvé cet échange très enrichissant et j'espère que vous avez appris des choses et en tout cas qu'il y a des choses dans lesquelles vous vous retrouvez. N'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux sociaux. À chaque fois que vous avez un message à faire passer à un des invités, je le fais avec grand plaisir. Et je sais qu'il y a des rencontres qui ont eu lieu, des échanges par message, par mail, etc. C'est chouette de créer cette petite communauté, en tout cas, d'échanges, d'entraide entre hommes. Je trouve que, en tout cas, ça fait partie d'une vision de la masculinité positive et je suis très contente en tout cas que ça prenne. N'hésitez pas à soutenir le podcast sur les réseaux sociaux et puis toujours une petite note sur Apple Podcast, des étoiles, un avis. Ça fait toujours plaisir et ça permet en plus au podcast de continuer à se faire connaître. À très bientôt pour un nouvel épisode On the Verge.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.